appel en cours sur le trottoir d'à côté.
Bonjour Bernard Valerie.
Bonjour.
Alors vous, le spécialiste du pouvoir d'agir, vous avez dû apprécier ce rapport Bourguignon.
Alors, spécialiste, le terme est flatteur. Disons que je m'intéresse à cette notion, si vous voulez, depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors oui, effectivement, on sait que c'est une notion qui est omniprésente aussi bien dans les différents rapports des états généraux du travail social que dans le rapport Bourguignon qui a donc été remis à Valls. La première chose, si vous voulez, que la petite critique, parce que j'ai trouvé ce rapport très riche, très dense et ouvrant plein de perspectives, la toute petite critique, c'est une absence de précision de ce que les auteurs entendent par développement du pouvoir d'agir. Parce que si un certain nombre de références bibliographiques figurent dans le rapport, et à très juste titre, ce n'est pas le cas pour développement pouvoir d'agir, et quand à la page 21, on rentre dans des subtilités entre capacité d'agir, pouvoir d'agir, ne pas préciser l'idée de développement de pouvoir d'agir va être source d'ambiguïté et de contresens. Donc là, c'est mon petit regret, mais mon regard, sinon, je partage complètement l'esprit du rapport.
Juste comment justement, en deux mots, vous pourriez expliquer cette notion de pouvoir d'agir?
Alors, si vous voulez, développement du pouvoir d'agir, c'est-à-dire, c'est faire en sorte que des personnes qui rencontrent sur leur parcours des obstacles réussissent à les franchir, quelle que soit la façon. C'est-à-dire qu'on développe un pouvoir d'agir quand on arrive à aller dans une direction qui est importante pour nous, quand on arrive à faire les choix qui sont et à les mettre en œuvre, à faire les choix et à mettre en œuvre les choix qui sont importants pour nous. Mais c'est là où la précaution que je prendrai par rapport au rapport, c'est que parler de capacité d'agir renvoie à une propriété personnelle, on est capable de faire de la bicyclette ou on n'est pas capable, etc., etc. Or que parler de pouvoir d'agir, c'est évidemment introduire tout le contexte de vie, hein, prendre en compte les composantes structurelles, et une précision bibliographique à ce sujet-là, je pense à mes collègues canadiens en particulier, aurait, je pense, évité des contresens, parce que on risque facilement de passer du pouvoir d'agir au devoir d'agir, ce qui est une erreur très fréquente dans le travail social actuellement. Hein. Dans tous les textes qui portent sur l'autonomie, etc., qui sont des injonctions à l'autonomie, vont à l'inverse de l'idée du développement du pouvoir d'agir. Quand on dit aux gens comment il faut qu'ils fassent, quand on a des guides de bonnes pratiques, des recettes et autres, c'est foutu, on n'est plus dans le pouvoir d'agir. Donc si vous voulez, ma crainte c'est ça.
C'est que les gens s'en emparent.
C'est que les gens s'en emparent parce que ça va être à la mode. Donc tous les projets institutionnels, associatifs vont contenir l'expression développement de pouvoir d'agir, mais sans que les auteurs de ces projets se soient réellement appropriés le contenu de cette expression, quoi. Donc voilà, c'est la seule petite critique que je ferai au rapport, c'est un manque de précision concernant cette expression qui est omniprésente actuellement dans toutes les réflexions concernant le travail social.
Alors, souvent votre crainte, on vous avait rencontré sur le trottoir d'à côté pour l'émission qui avait été enregistrée le 6 avril, et vous nous disiez, votre crainte c'était un petit peu qu'on oublie que le pouvoir d'agir, ça oblige aussi le professionnel à travailler sur les structures, sur les raisons du problème. Est-ce que vous pensez que ce rapport vous rassure sur ça? Est-ce que c'est une tentation ou est-ce qu'on sent...
Alors, c'est pas qu'il me rassure ou pas, on en est à une phase, si vous voulez, d'intention. Moi, l'immense majorité des intentions énoncées dans le rapport me semble très riche. Ce que je demande à voir maintenant, c'est le passage à l'acte. Il y a deux propositions auxquelles je me suis particulièrement attaché. Ce sont la 16 et la 18. C'est-à-dire ce qui concerne l'évaluation des formations, hein, et ce qui concerne la participation des personnes concernées par les interventions à la formation. Ce sont sur ces deux propositions que j'ai le plus réfléchi.
Bon. Alors vous ramenez la question, c'est la deuxième partie du rapport, sur la question de la formation.
Ouais.
J'allais vous interroger là-dessus. Alors, Brigitte Bourguignon explique bien dans la première partie que face au changement de société, le pouvoir d'agir et la méthodologie du pouvoir d'agir auraient du sens pour répondre aux besoins actuels. Et là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est cette méthodologie du pouvoir d'agir, elle nécessite une formation, elle nécessite un apprentissage, un déroulement...
Un bouleversement culturel. Ça va beaucoup plus loin qu'un apprentissage. C'est-à-dire que moi, je suis très critique, vous le savez, sur la façon dont les interventions sociales sont organisées aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du handicap, le domaine des difficultés sociales, la protection de l'enfance, etc. C'est un bouleversement culturel qui, alors, effectivement, mais qui est indiqué dans le rapport. Hein, quand on dit qu'il faut passer de l'idée de diagnostic à l'idée de maïeutique, on est tout à fait là-dedans.
Bien sûr, bien sûr.
Donc moi, j'ai toujours été très critique sur l'importation de termes médicaux dans le domaine social.
Ce que vous soulevez là, c'est que maintenant, il faut aussi que cet apprentissage de la méthodologie du pouvoir d'agir soit aussi transmis au niveau professionnel via la formation. Ouais. Et là, on est encore un peu éloigné de ce vœu-là. Est-ce qu'on travaille à la question du pouvoir d'agir dans les centres de formation?
Ah ben, à l'IUT où j'exerce, pleinement, mais ça prend 3 années. Et si vous voulez, c'est tout mon modèle de formation qui est mis dans le coup, c'est-à-dire un rapprochement entre tout ce qui est stage et mes enseignements qui est très fort. C'est-à-dire que moi, je fais très peu d'enseignements magistraux, énormément d'analyses de pratiques, énormément de travail à partir du cahier de bord. Je suis énormément sur le terrain. Donc, si vous voulez, ça rejoint la préoccupation. On rejoint sur la question du croisement des savoirs de la DT Carmonde. C'est-à-dire, quelle place est-ce qu'on laisse en tête des hiérarchies les savoirs théoriques? Est-ce qu'on se dit les enseignements issus des expériences de vie ont tout à fait leur place? Les enseignements issus de l'action pour être sociaux ont tout à fait leur place? Est-ce qu'on continue à y avoir des hiérarchies implicites ou explicites dans ce domaine-là, où on se dit faut articuler ces 3 types de sources de connaissances et tout? Donc si vous voulez parler pouvoir d'agir, c'est parler de tout ça. Donc moi, si vous voulez, dans ma conception d'une formation d'un travailleur social, hein, essentiellement des éduques et des AS, effectivement, c'est m'assurer qu'il n'y ait pas un registre d'origine des connaissances qui l'emporte sur l'autre. Voyez. Donc là, on est dans des renversements culturels. Si on prend l'université, pour l'université, ce qui prime, c'est le savoir théorique, hein, issu de procédures canoniques, etc., etc. Et la place des connaissances issues de l'action n'est pas très importante dans tout ça, et voire méprisée. Donc quand je parle, et il en est de même dans les centres de formation qui sont très inspirés par les universités, c'est-à-dire que quand je dis que c'est un vrai bouleversement culturel, c'est pas uniquement modifier quelques enseignements, c'est se dire quelle place effectivement accorde-t-on à ce que les personnes concernées par nos interventions peuvent nous amener, etc., etc. Et si on n'est pas convaincu de ça, si on n'en a pas fait soi-même l'expérience, évidemment, l'appropriation de la notion de développement de pouvoir d'agir ne peut pas marcher. Donc c'est un bouleversement culturel.
Alors comment va pouvoir se produire ce bouleversement si les formations de niveau 3 passent au niveau licence et de ce fait on risque de voir revenir les savoirs théoriques dans le cursus de formation du fait de ce passage à licence? Est-ce que ça peut être une crainte?
Bien
qu'on
sûr.
Risque de s'éloigner du terrain. Alors comment lier ce paradoxe à la fois de reconnaissance de ces métiers en passant au niveau licence et en même temps le risque que ce passage à niveau licence nous éloigne de la méthodologie que vous voulez mettre en place pour promouvoir le pouvoir d'agir?
Ah ben pour moi, le passage des formations du social au niveau 3, donc dans les cursus licenciaux, serait une chance pour l'université. L'université actuellement cherche à professionnaliser, est très intéressée par les questions de professionnalisation. Mais telle qu'elle s'y prend, ça ne marche pas, on le sait bien. Hein, on le sait bien. Donc si vous voulez, ce serait une chance pour l'université de s'inspirer un petit peu de certaines pratiques innovantes qui existent dans le social. Encore une fois, on a la grande chance dans nos formations d'avoir cette alternance, hein, autant de temps sur le terrain que en centre de formation. Maintenant, il faut l'organiser. Moi, il y a quand même deux, trois phrases qui m'ont fait sourire dans le rapport. Est-ce qu'on est vraiment dupe? Est-ce qu'on pense vraiment que des stagiaires peuvent changer le regard de professionnels? J'y crois pas du tout. L'œil neuf du stagiaire et autres, bon, c'est de l'incantation, c'est du déclaratif, mais ça ne marche pas comme ça. Quand on voit, par exemple, que des stagiaires d'école n'ont pas accès au temps d'analyse de pratique sur le terrain, sous prétexte qu'ils vont bouleverser le groupe, ce qui est stable, je pense qu'il y a une confusion entre supervision, analyse de pratique qui sont essentiellement gérées par des psychologues, cliniciens, etc., etc., qui emmènent tout le monde dans le mur. Donc, si vous voulez, je pense que faudra pas que les hautes écoles dupliquent ce qui se passe à l'université, parce que là, ça ne fera qu'aggraver les problèmes. Il y a une richesse dans les formations du social, bien évidemment, à améliorer, etc., etc., mais qu'il faut surtout pas perdre, faut pas se laisser assez influencer, et ça, c'est une crainte qu'on peut avoir. C'est une crainte de l'asservissement des écoles aux universités, tout ça pour décrocher une licence, des masters ou je sais pas quoi. Moi, je ne suis pas automatiquement pour le passage à la licence pour les niveaux 3. Hein. Pour moi, les gens viennent chercher un diplôme professionnel. Est-ce que ça vaut une licence ou pas? Je ne suis pas légitime pour en parler. Je n'ai pas d'idée sur la question.
Le 187S, les ont positionnés dessus.
C'est pas simple. C'est pas simple. Moi, ce qui me paraît essentiel actuellement, c'est qu'on soit capable. Moi, je suis tout à fait le rapport. Faut réorganiser. Faut améliorer ce qui se fait actuellement sur le terrain dans les centres et autres en s'interrogeant qu'est-ce qu'on vise à travers les interventions sociales. Comment fait-on avec et non pour, etc., etc. Moi, c'est le centre de mes réflexions. Comment peut-on s'y prendre? C'est bien beau de faire venir des usagers, entre guillemets, dans les centres de formation, mais pour y faire quoi? Pour y faire quoi? Moi, si on parle développement du pouvoir d'agir, c'est un apprentissage expérientiel. C'est un apprentissage qui se fait parce qu'on développe soi-même son propre pouvoir d'agir et qu'on réussit à mettre en place ces conditions pour que les personnes pour qui la vie est difficile développent eux-mêmes leur propre pouvoir d'agir. On est vraiment dans l'expérientiel. On n'est pas que dans le magistral. Donc, si vous voulez, et ça, les écoles peuvent le faire. Alors après, reste le lien avec le terrain. Moi, une autre réflexion qui me vient, c'est que je vois dans un certain nombre d'écoles, les formateurs sont directement issus du terrain, bon, éventuellement en ayant fait un master pro au passage, mais est-ce qu'ils ont vraiment pris du recul sur ce qu'était leur pratique antérieure et autres? C'est pas toujours évident. Donc il y a des
transitions qui sont développées. C'est un point qui est très développé aussi dans ce rapport.
Tout à fait. Et là, dans les propositions, hein, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est des cursus de formateurs et autres, ça me paraît incontournable pour permettre aux personnes qui ont envie de choisir ce chemin, et c'est tout à fait louable, légitime, qu'ils aient les moyens de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'ils ont pratiqué pendant des années.
D'accord. Bernard Vaderie, est-ce qu'on peut attendre de votre part un livre, un travail de retour sur votre expérience de la transmission de ce pouvoir d'agir dans votre IUT? Parce que je crois qu'on va avoir besoin d'apprendre à travailler autour de ces concepts-là.
Alors, j'en ai déjà un peu traité dans le bouquin que j'ai coordonné, hein, Intervention sociale et empowerment. Donc, si vous voulez, il y a tout un chapitre qui relate des temps d'analyse de pratique. Parce qu'encore une fois, je le dis, moi, c'est sur 3 ans. L'idée, quand je parle d'apprentissage expérientiel, les gens vont sur le terrain, ils font des choses. Ils reviennent en centre de formation, ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait. Ils en dégagent des pistes d'action qui vont réessayer à nouveau sur le terrain lors de leur expérience suivante, etc. Sans compter des temps de réflexion dont ils profitent sur le terrain. Vous voyez donc tout ça, il y a un chapitre du bouquin que j'avais présenté à votre radio qui le traite avec précision. Maintenant, je renvoie aussi à tout ce qui est travaux à TT Carmonde, vous voyez. Moi, mais qu'est-ce qui me fait dire que les choses sont améliorées? Ce sont par exemple les bibliographies des mémoires de diplôme d'État, dans lesquelles je trouve que les ouvertures sur ces questions-là sont très faibles. Rares sont les travaux d'étudiants, donc que des travaux qui ont été accompagnés hein, par des enseignants et autres, qui font allusion à des travaux de l'Atlantique, québécois en particulier, parce que là-dessus, le monde nord-américain a un temps d'avance sur nous. Par exemple, il n'est plus question aujourd'hui de faire une recherche sans que l'interprétation des résultats faits par les chercheurs soit soumise aux personnes concernées par la recherche. Moi, je travaille actuellement sur des quartiers de Montréal-Nord. Toutes les interprétations qu'on fait dans l'équipe de chercheurs, on les soumet aux personnes et vraiment dans un rapport critique. Hein, c'est pas une consultation, c'est une vraie concertation. Donc, si vous voulez, pour moi, tout ça passe par là. C'est-à-dire que une évolution quand même des bibliographies, quand les bibliographies des mémoires auront évolué, on se dira, tiens, il se passe quelque chose dans les écoles d'éduc et effectivement, cette question du avec et non du pour, etc., etc., aura avancé. Mais pour l'instant, c'est pas le cas.
Bon, il y a un changement de paradigme à avoir. Si jamais nos auditeurs veulent approfondir, ils peuvent aller écouter cette émission que nous avions enregistrée le 6 avril, l'émission du trottoir de côté, l'émission justement. Puis se plonger dans toute la justement bibliographie qu'il y a sur ce sujet-là. En tout cas, ça bouge et on verra. J'espère qu'on verra ensemble si les choses vont dans ce sens-là à l'avenir.
Le rapport, si je peux me permettre, est une bonne tâche de départ. C'est un rapport qui est très consistant, qui est très riche, qui suggère énormément d'ouverture, à nous de les saisir.
Très bien. On en parlera avec Brigitte Bourguignon mercredi, puisque c'est la prochaine invitée du trottoir d'à côté d'émission. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci Eric. À bientôt.
Au revoir.
Vous écoutez le trottoir d'à côté.
There's no good old